La recherche-action est un terme au contour flou qui désigne généralement une méthodologie alliant théorie et mise en pratique en vue de chercher à modifier la réalité tout en produisant des connaissances liées à ces transformations. Elle implique, dans le processus de construction de la recherche, autant les chercheuses et chercheurs que les actrices et acteurs participant à l'expérimentation. Il s'agit alors d'éprouver une situation plutôt que de l'observer, de faire de l'intervention la possibilité d'une compréhension. Si ce terme est habituellement désigné pour décrire le travail d'actrices et d'acteurs sociaux, il apparaît que la pratique de certaines et certains artistes s'y apparente. Le processus de création contribue à modifier et par là comprendre les situations dans lesquelles les artistes évoluent. Tous et toutes travaillent à la co-construction de savoir en agissant directement dans le réel avec les actrices et acteurs du terrain d'étude devenu champ d'action. J'ai souhaité m'entretenir avec des artistes qui se réclament de la recherche-action, définir ensemble ce que pourrait être la recherche-action en art et définir ce qui en relèverait dans le travail de chaque artiste. You were loved from the start. Sissies, trannies, ladyboys, your bodies are beautiful.
Je me présente comme un cinéaste. Je fais des films, enfin, c'est des essais cinématographiques qui s'appuient sur des expériences que je vis et que je vis pendant des performances que je développe et que je réalise. Donc, en gros, j'utilise les outils cinématographiques pour faire une retranscription de l'expérience que j'ai vécue. Donc ça, déjà, c'est comme ça que je me situe par rapport à une pratique artistique.
Maxime Berthoud, cinéaste, artiste, mais aussi caviste, restaurateur.
Ensuite, la méthodologie, en fait, c'est simplement que pour qu'il se passe des choses pendant la performance, on établit des règles du jeu. Et ces règles du jeu, c'est tout simplement de la recherche-action, c'est-à-dire la volonté de transformer la réalité pour qu'il y ait des choses qui apparaissent et créer de la connaissance autour de ces événements qualitatifs ou quantitatifs. Donc vraiment, ça se situe vraiment dans le champ de la recherche. Recherche basée sur la pratique. Donc c'est faire de la pensée à partir d'une pratique artistique, créer de la pensée. Et c'est pour ça que je fais le lien avec l'essai cinématographique, qui est une forme cinématographique. C'est une démarche introspective dont le but est de prendre la mesure de sa propre pensée. Ma volonté, c'est de créer un vocabulaire cinématographique vraiment pour justement évoquer mes propres projets. Donc, dans cette histoire artiste, soit cinéaste, il y a eu beaucoup de tentatives de théorisation de cet entre-deux. Et au final, tout ce qui a été écrit tend à dire qu'en fait, ça dépend plus du champ du cinéma. Même si c'est des films réalisés par des artistes contemporains, ça reste du champ du cinéma, c'est à l'aune du cinématographique, quoi. Je ne travaille qu'en collaboration. Donc j'invite à chaque fois quelqu'un, un plasticien, un artisan, n'importe quel profil en fait, qui a une maîtrise de quelque chose. J'invite cette personne à développer et réaliser un projet avec moi. Donc en général, j'arrive déjà avec l'idée. Je la soumets à quelqu'un en disant, écoute, est-ce que ça te brancherait qu'on fasse exploser un mur de champagne, etc. Et si la personne s'embarque entre guillemets avec moi, je lui demande de se réapproprier complètement le projet pour que ce soit vraiment une collaboration, que ce soit pas une réalisation, que ce soit quelqu'un qui m'assiste en fait. C'est vraiment une co-réalisation. Donc je ne travaille que comme ça. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de proposer quelque chose à Marc Pogelep, qui est un plasticien slovène, dont j'aime beaucoup le travail et j'aime surtout la personne. Je la trouve très, je la trouve hyper intéressante et j'avais envie de développer un truc avec, avec lui. Donc je lui ai proposé un soir de d'hiver, c'était juste avant Noël, au coin de la cheminée, j'ai proposé de partir en Écosse sur un bateau qu'on transformerait une fois arrivé en tonneau. Donc bâbord et tribord pour remplir la coque de whisky et faire vieillir le whisky dans ces fûts complètement imprégnés du vent, de la mer, de l'aventure qu'on aurait vécu. Donc on s'est lancé dans ce projet immédiatement, quelques jours après, en le faisant évoluer évidemment. Donc du coup on a trouvé une épave, ça a mis très longtemps déjà pour convaincre un artisan, un charpentier de faire ça avec nous, parce qu'il y a une grosse superstition marine qui empêche de détruire des bateaux, les transformer, les détruire, etc. Donc c'est très compliqué, ouais. Donc j'ai mis un peu plus d'un an avant de trouver la personne qui a réalisé le travail. Ensuite, un an de plus pour trouver l'épave, parce qu'on voulait un bateau qui était partiellement construit en chêne blanc. Donc le chêne blanc, c'est ce qui est utilisé pour faire des tonneaux, donc rester dans la même essence de bois. Et surtout, on s'est rendu compte que la forêt de troncée qui a été plantée sous Napoléon servait à faire les mâts des navires, les meilleurs mâts de navires. Et après la révolution industrielle, il a fallu trouver une utilité à ce bois, et c'est les tonneliers qui se sont rués sur cette matière première de premier plan. Parce qu'en fait la fibre est très régulière, très fine, et du coup ça fait les meilleurs tonneaux du monde, de meilleurs mâts de navire, ça fait les meilleurs tonneaux. Donc on a trouvé une épave qui s'appelle Soutien de famille, entre Saint-Malo et Trébeurden, en gros, très largement, et qui a été construite pendant la guerre, donc en 1941, avec du bois de la forêt de Troncée. Une fois qu'on a trouvé ce bateau, on l'a fait décontaminer pendant 2 ans, avec des sableuses haute pression et la glace hydrique pour libérer la coque des hydrocarbures et des peintures que ses vies passées lui avaient imposées. Une fois que le bateau était complètement mis, on l'a mis dans l'eau et on est parti donc depuis Trébeurden jusqu'en Écosse, jusqu'à Isla, qui est une île hybride qui est très connue pour ses whisky. Simplement, c'est une île complètement mythique. Et donc, 45 jours de mer, ultra capricieuse, dans des conditions absolument épouvantables, où le bateau, c'est rempli de toutes ces histoires et de toute cette eau de mer. Donc, pour se donner une idée, ça fait 150 litres d'eau toutes les 9 minutes à enlever de la coque, parce que le bateau est complètement poreux, il n'y a plus de calfa, il n'y a plus rien. Le charpentier nous avait garanti que le bois, en gonflant, recréait l'étanchéité, mais en fait, d'une part, il avait sous-estimé la puissance de la mer d'Irlande et tout, là-bas, c'est vraiment hardcore. Du coup, le bateau bougeait dans tous les sens, donc ça faisait des voies d'eau en permanence. Et ensuite, le bois était tellement, travaillé tellement que c'était plus du tout étanche. Enfin, très rapidement, en fait, dès les premiers jours. Le bateau, il n'y avait plus de moteur, il n'y avait plus rien, donc il était complètement déséquilibré. Il pouvait monter qu'à 90, degrés, quoi, tu vois, au vent. Donc, c'est très peu maniable, enfin, c'est vraiment très, très complexe. Chaque mille, on les a vraiment arrachés à la mer. Une fois qu'on est arrivé au pied d'une distillerie qui est vraiment réputée pour être tournée vers les marins, vers la mer, qui est au pied de l'eau de toute façon, on l'a sorti de l'eau, le bateau, immédiatement, on l'a découpé et on a fabriqué deux fûts avec l'aide de tonneliers. Donc de fûts bâbord et tribord, et une fois que les fûts étaient terminés, hop, ça, on a mis du whisky qui avait 11 ans à l'intérieur, qui a passé un an de plus, donc c'est un vieillissement d'un an, et au bout d'un an le on a tout mis en bouteille et tout a été vendu. Donc ça c'est le projet, et tout a été filmé, donc ça c'est sur 7 ans, hein. Tout le whisky a été vendu, comme on est on essaye de suivre des principes d'économie circulaire, on essaie de tenter des choses par rapport à ça pour ne pas opposer mécanisme de production et mécanisme de création. On s'est dit qu'on allait tout réinvestir dans un autre projet au lieu de retirer nos billes et puis de peut-être prendre du temps ou quoi. On s'est dit non, on va rester dans cette dynamique-là. Donc on a racheté un bateau aux États-Unis, cette fois-ci un bateau à vapeur, de la même taille, exactement la même dimension que l'autre, pour le restaurer, non, pour le préparer à descendre donc tout le Mississippi, avec cette fois-ci donc l'idée de traverser un continent, un fleuve. Donc règle du jeu de recherche-action, une chaudière limitée qui nous impose de nous arrêter tous les jours pour chercher du bois, faire du stock de bois, donc de s'arrêter sur les rives du Mississippi, récupérer le bois qui a été déposé par les crues précédentes, le découper, le débiter, charger le bateau et être capable de repartir une journée. Donc on voulait pour le deuxième projet que ce soit tourné vers l'extérieur, vers le reste du monde en fait. Et de passer d'un environnement naturel à un environnement, c'est notre idée, une autre contrainte. Et pour ça, le fleuve, donc ça a changé de contexte. C'était plus la pleine mer, la haute mer, mais le fleuve. C'était plus à voile, c'était à vapeur. Et on ne détruisait pas le bateau pour faire des fûts. On le transformait en distillerie. C'est-à-dire que tous ces arrêts imposés pour faire du stock de bois, c'était un prétexte pour rentrer en interaction directe avec l'environnement social du fleuve pour évoquer des questions liées à la monoculture du maïs. Donc, qu'est-ce que ça implique économiquement et écologiquement? Étudier le contexte historique de comment la colonisation a amené à d'autres formes de racisme et le racisme aujourd'hui. Et le troisième axe, c'était sur la présence de la musique sur le fleuve. En fait, le Mississippi, ça, il y a absolument toute l'essence de la musique qui y est représentée. Donc, comme moi, j'avais une intuition pour l'essai cinématographique qui était de situer l'action en utilisant la musique. Donc, si tu utilises la funk, t'es peut-être à Minneapolis. Si tu utilises du Elvis Presley, tu seras peut-être à Memphis. Et si tu utilises de la musique cajun, tu es probablement autour de la Nouvelle-Orléans. Donc, on s'arrêtait tous les jours avec notre petit bateau, avec la contrainte de trouver du bois et de récolter du maïs. Donc, il y a 42 variétés de maïs dans cette région des États-Unis. Et donc, on voulait récolter ces 42 variétés. Une fois qu'on est arrivé à la Nouvelle-Orléans, on a transformé notre bateau en mini-distillerie. Parce que c'est exactement le même principe que pour créer une machine à vapeur, en fait. Au lieu de produire de la puissance, on produisait un distillat, et c'est pour produire donc du moonshine, qui est l'alcool de la prohibition, qui est dans le spectre du whisky la forme la plus modeste. Donc le single malt écossais, ça, c'est la forme la plus noble, et là c'était vraiment l'inverse, c'est vraiment de l'agnole. Voilà, mais c'est un marqueur identitaire hyper fort aux États-Unis. Les gens sont prêts à aller en prison pour continuer à faire du moonshine. C'est quelque chose qui est vraiment hyper important. Et surtout, ça faisait le lien avec toutes nos questions. Donc, c'est du maïs. Donc, toutes les questions autour de la monoculture du maïs, la musique, tous les speakeasy, pendant la prohibition, tous les bars clandestins. Écoulé du moonshine, c'était du moonshine qui était vendu, c'était de l'alcool qui était pas vieilli, parce qu'ils n'en avaient pas la possibilité. Et ils proposaient à des musiciens de venir jouer pour faire que les gens puissent boire tranquillement, quoi. Et c'est dans ce contexte qu'est plein de mouvements sont nés de musique. Et le dernier lien avec le racisme, c'est un intermédiaire parce que les Indiens, il y avait déjà un rapport avec le maïs qui était hyper important. Et aujourd'hui, tu as certaines communautés qui sont complètement dévastées par l'alcoolisme et tout ça. Donc, ça nous permettait de faire un parallèle. Alors si, nous, on était tous les deux sur le bateau, et à terre, il y avait une équipe. Bon, alors, ils étaient deux, hein. C'était un chef opérateur et son assistant, et moi, je dirigeais le tournage depuis le bateau. Donc, nous, le film, après, il s'articule à partir des images qui sont tournées à l'intérieur du bateau, qui sont des images de fine footage ou de caméra à l'épaule, donc des images plutôt modestes en termes de qualité, de valeur de plan et tout ça. Et à l'extérieur du bateau, c'est un cinéma maîtrisé avec des vraies caméras de cinéma qui filment des plans très, très, très maîtrisés, structurés. Et le récit s'installe entre ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur du bateau. travaille avec des distributeurs. Ouais. Il y a un distributeur pour les États-Unis, un distributeur pour le reste du monde, qui préachète en fait les produits. Donc ils ont évidemment et après le projet doit être réalisé dans cette enveloppe avec des engagements. Nous, on s'engage sur la matière, sur les produits, sur leur raconter l'histoire, que eux puissent la réutiliser, etc. Mais en fait ça se fait assez naturellement parce qu'il y a une attractivité déjà pour le produit et ensuite l'histoire, le métadonnées quoi, ça permet de faire un produit avec une c'est un petit cheval de Troie quoi. Nous c'est de trouver une économie indépendante des présentations muséales, du marché de l'art, de tout ça. Et nous, on s'adresse de toute façon avec nos délivrables, pour rester dans un vocabulaire de recherche, on s'adresse à la communauté des amateurs d'art contemporain, à la communauté des amateurs de spiritueux et à la communauté des amateurs de bateaux. Donc c'est complètement transversal quoi. Enfin c'est pour eux quoi. Nous, il n'y a pas de distinction en fait. C'est-à-dire que pour moi le whisky ou le moonshine, c'est des multiples. Hein. C'est une édition de quelque chose qui est le résultat d'une expérience. Pour moi, il n'y a pas plus cohérent en termes d'œuvre d'art. Et en plus, tu peux la métaboliser en la buvant pour être bourré. Voilà. Ensuite le film, comme c'est vraiment ce que j'essaye de développer moi pour ma pratique, c'est hyper important de faire un film et de chercher justement ce vocabulaire cinématographique. Et le livre, c'est un objet qui reste, c'est le catalogue de l'expo. En fait, dans la recherche action, il faut des outils pour rendre compte de ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la description dense qu'on transpose à un tournage cinématographique. Donc les données collectées, collected data, vont de texte aux photos en passant par tout ce qui est utilisé pour la description dense. Et nous, on transpose ça ensuite. Enfin, quand je dis nous, c'est plus mon rôle, c'est de transposer ça à un tournage. Donc c'est uniquement un outil de retranscription. Donc ça joue aucun rôle dans la transformation de la réalité. Simplement pour témoigner des transformations qu'on opère. Et donc, là, voilà, nous, c'est ce qu'on fait. En fait, on voit une performance, c'est ce que nous, on appelle un geste performatif. C'est les performances qu'on fait, c'est clairement ça. On a une posture qui est plus ou moins absurde. On voyage sur des moyens complètement anachroniques, sur des moyens inefficaces. Donc, il y a une transformation de la réalité. Enfin, quand on arrive quelque part avec notre bateau, pour les gens, c'est quelque chose qui n'est pas normal. En fait, pour aller jusqu'au bout de la recherche action, il faudrait que les données qu'on collecte et les éléments qualitatifs et quantitatifs qu'on observe nous permettent de modifier, de répondre à une question. Mais nous, en fait, on répond pas à cette question. On n'a pas envie de modifier la manière dont vivent les Américains dans le Midwest, par exemple. Il y a un vachement d'observation, même en sciences sociales, finalement. Et je pense à Nat Singh ou Lucien Caspel-Delor, il reste vachement dans l'observation. All right.